et content de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des Carnets de Comaguerre. Et on est surtout très heureux de saluer le retour dans le studio et dans l'équipe de Aïcha. Bonjour Aïcha et bienvenue. Aujourd'hui c'est Radio Aïcha sur 88.4.
4.
Voilà, et je suis avec mes deux complices habituels, Roselyne et Habib.
Bonjour.
Qui sont là tous les deux.
Bonjour Aïcha.
On va commencer par des petites nouvelles, mais c'est un peu toujours autour des mêmes sujets chauds. Une décision.
Il y a la musique là.
Oui, alors une décision positive du président de la Turquie. Alors c'est assez intéressant parce que je crois que c'était la couverture, la une du Point qui était sur les kiosques à journaux. Et on mettait Poutine et Erdogan côte à côte, ou face à face plutôt, en disant cela maintenant. Ils sont trop d'accord pour ne pas être insupportables de notre point de vue occidental. Et effectivement, alors c'était dans l'attente ou dans le commentaire d'une décision qui a été prise, c'est-à-dire que la Turquie a confirmé, ce qui est tant mieux, qu'elle allait respecter la convention de Montreux, au terme de laquelle les navires de guerre de l'OTAN ne peuvent pas rentrer dans la mer Noire.
Voilà.
Donc, faute d'une opposition militaire de la Turquie. Donc le message est passé. Donc ce qui veut dire que Erdogan et la Turquie, toujours membres de l'OTAN, ni moi je suis membre de l'OTAN, mais j'ai un traité international que je fais respecter, qui s'applique, et donc ne venez pas compliquer la situation dans la mer Noire, ne venez pas participer à la guerre d'Ukraine. Vous dites que c'est une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ben, laissez-les, vous n'avez pas raison d'envoyer la flotte de l'OTAN. Ou alors dites c'est une guerre de l'OTAN contre la Russie. Mais dites-le. Ne faites pas comme si vous ne saviez pas. Bon. Ça, c'est la première nouvelle.
Et pour une fois.
Voilà, elle est bonne, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Alors, puisque je suis dans la mer Noire, j'y reste un petit moment. Et je vais vous parler de blé. Parce que je pense que vous mangez du pain, et vous n'êtes pas les seuls humains à manger du pain sous nos latitudes, ça se déroule un peu partout, et on est en train de nous monter une vaste campagne sur l'absence du blé ukrainien. Alors pour la récolte quand même après le mois de juillet, c'est pas pour tout de suite, les silos ne sont pas vides, la récolte de la dernière a eu lieu, il y a des réserves, etc. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire du blé? Alors on fait monter le grand, il va manquer le blé ukrainien. Alors je situe le blé ukrainien par rapport au marché mondial international.
Exactement.
Du blé.
Exactement.
Ce marché s'élève à en gros 180 millions de tonnes par an. Là-dedans, dans ces 180 millions de tonnes, la part de l'Ukraine est classiquement, et elle devrait, il n'y a pas de raison, il n'y a pas eu d'intempéries, les champs de blé n'ont pas été ravagés par l'armée russe parce qu'on se bat ailleurs et pas là-dedans. Bon, donc il devrait y avoir une récolte ukrainienne et une exportation qui serait d'un niveau classique, c'est-à-dire 4 ou 5 millions de tonnes. Ceci est à rapporter donc au commerce international de 180 millions de tonnes. Donc une petite proportion qui ne justifie pas nécessairement le fait que les cours du blé flambent déjà, alors qu'on ne sait pas si ce blé pourra être acheminé ou ne pas l'être. Bon. Ça, c'est une première donnée. Alors que je confronte, alors je vous rappelle le chiffre, 180 millions de tonnes de blé donc circulant sur les océans pour alimenter toutes les meuneries du monde. Et je situe ça par un autre chiffre qui a été mis sur les ondes, que j'ai entendu, et qui est un chiffre éminemment trompeur, puisqu'on a parlé des 800 millions de tonnes de céréales. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et l'Ukraine, au que chasse, ne produit pas de riz, alors que le riz fait par un commerce international important. Donc là aussi, il y a une déformation où le journaliste se débrouille de telle façon qu'il fait croire que c'est un commerce consigné. Voilà, et qu'on va à la famine. Alors, on n'y est pas. C'est pas la famine. Il y a du blé. Et il y a du blé qui est en train de finir de mûrir dans les champs de terre noire d'Ukraine. Et ce blé ne demande qu'à être exporté. Puisqu'il y a des exportateurs, il y a une recette du commerce extérieur ukrainien qui est régulière là-dessus. C'est un blé de qualité, à l'égal d'ailleurs du blé russe qui est fabriqué sur les mêmes terres, juste de l'autre côté de la frontière. Mais ce blé doit passer par la voie maritime, puisqu'en fait, il ne prend pas le train, puisque la Russie en a. En Europe de l'Ouest, il y a du blé. Donc, c'est des exportations vers le bassin méditerranéen, vers le Moyen-Orient, vers l'Asie, vers l'Afrique, etc. Donc, l'acheminement, c'est normalement le bateau. Le bateau donc sort de la mer Noire, traverse l'Istanbul et là, la Turquie le laisse passer. Et il ne s'agit pas d'un navire militaire, il s'agit d'un navire de commerce pour alimenter les populations. Bon, le problème est le suivant. C'est que jusqu'à présent, et ça c'est certain parce que l'Ukraine ne peut pas dire le contraire, le port d'Odessa, par lequel se passe l'essentiel de ses exportations de blé ukrainien, n'est pas occupé par la Russie et par l'armée russe. Donc ce port est en état de fonctionnement. Le problème qui se pose, et c'est pour ça qu'on nous fait, on nous fait dresser les cheveux sur la tête pour la famine, c'est que le gouvernement ukrainien a fait miner la mer autour du port d'Odessa. C'est-à-dire qu'il s'est lui-même interdit la capacité d'exporter son blé. Alors c'est facile de dire c'est les Russes. Non, les mines, et il y en a trois rangées successives, les mines ont été déposées par la marine ukrainienne. Alors effectivement, les bateaux ne peuvent pas sortir, sinon ils vont couler, sauter sur des mines. Ce à quoi la Russie répond en disant « Mais messieurs, si vous voulez vendre votre blé, déminez, hein, déminez. On vous laissera passer, il s'agit d'un trafic commercial, il s'agit d'une denrée de première consommation, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est vous qui avez miné, c'est vous qui devez déminer. Hein. Sinon, la comédie du blé va continuer. Bon. » Ce qui a, alors, en sourdine en plus, la Russie ajoute une petite information en disant « On vous signale que le blé peut aussi être exporté par le port de Marioupol. Hein » Marioupol, ça vous dit quelque chose, ça évoque des combats qui sont déjà achevés. Et là, la Russie précise qu'effectivement, le port de Marioupol, qui était donc ukrainien il y a 6 mois, a lui aussi été cerclé par les mêmes 3 rangs de mines que Odessa. Et la Russie, discrètement, en termes d'un communiqué, dit « Mais on est en train de procéder au déminage ». C'est-à-dire que si le blé ukrainien ne peut pas partir par le port d'Odessa, faute à l'Ukraine qui ne démine pas, la Russie, elle, est en train d'achever le déminage du port de Marioupol et ça passera par le port de Marioupol. Ça reviendra à peu près au même.
Marioupol, Donbass. Hein.
Voilà, Marioupol, donc c'est le port du Donbass. Alors Marioupol, à la différence d'Odessa, n'est pas sur la mer Noire. Marioupol est sur la mer d'Azov. Ils ont d'ailleurs un deuxième port qui est entre les mains des Russes et des séparatistes, comme on dit, donc qui s'appelle Berdiansk. Donc la Russie et donc les populations et les gouvernements des provinces du Donbass sont en capacité, puisqu'ils sont en train de déminer eux-mêmes, d'exporter le blé ukrainien. Donc ils ne sont pas en train d'étrangler l'Ukraine et d'étrangler le commerce mondial du blé. Et je situe quand même 4 millions de tonnes sur 180 millions de tonnes. La Russie va exporter plus que ça.
Il y a du blé en Inde.
Oui, bien sûr. Mais ce blé-là arrivera sur le marché. Il ne s'agit pas d'affamer les agriculteurs ukrainiens.
On parle d'affamer, mais c'est un faux problème. Ça fait,
voilà. Et la campagne marche bien, parce que j'ai vu qu'au Tchad, ils ont décrété l'état d'urgence en anticipation d'une éventuelle famine.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas vraiment la famine, c'est le problème des prix. Des prix, parce que quand il y a des risques comme ça de non-approvisionnement et qu'il y a une petite fraction du marché qui menace de ne pas être approvisionné, à ce moment-là, les spéculateurs arrivent sur la piste et disent « Ah, attention, il y a un risque et donc je fais monter les prix ». C'est-à-dire, c'est des marchés sur option, c'est-à-dire un pays qui est comme le Tchad, par exemple, qui dit « Il faut que j'achète en juillet ou en août telle quantité », on lui dit « Ah, ben oui, mais vous savez, il risque de manquer le blé ukrainien, donc c'est 50% de plus que l'année dernière, hein, et vous verrez bien ». Et de toute façon, ça sera 50% de plus qu'il arrive ou pas, parce que vous aurez signé un contrat. Bien fait, parce que le spéculateur capitaliste sur les marchandises est un assassin. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête.
Exactement.
C'est lui qui peut priver une population de son pain. Mais donc, ils ne vont pas se gêner. Bon. Alors, le cas du blé est exemplaire, mais c'est vrai pour des tas d'autres produits. Mais là, on est en plein dans ce système de propagande disant que c'est la faute aux Russes. Non, ce n'est pas la faute aux Russes, donc je confirme. Les ports ukrainiens, le port d'Odessa est utilisable à condition que l'Ukraine rende son utilisation possible. Et à défaut, assez rapidement, je pense dans quelques jours, les ports de Marioupol et de Berdiansk sur la mer d'Azov seront accessibles au trafic. Voilà. Et donc le blé partira. Alors ceux qui auront signé des contrats léonins entre les mains des spéculateurs internationaux seront bien embêtés. Là, on est dans un problème de régulation du prix des matières premières. C'est un vieux débat qui a eu lieu dans les années 1970 concernant les cours des matières premières. Il y a eu des débats parce que vous savez que le début des années 70, c'est un moment où il y a une espèce de pression internationale pour essayer de réguler les marchés de matières premières. En particulier, une pression venant des pays qu'on appelait le tiers-monde à l'époque, disant « Nous, c'est pas possible pour nourrir la même population avec la même quantité de blé, selon que le budget d'une année sur l'autre passe du double au triple, il y a des moments où on n'y arrive pas. » Et donc, il y a eu des tentatives qui n'ont pas été suivies, qui ont duré quelques années, de réguler, de fixer des plafonds de prix pour que tout le monde puisse accéder à cette ressource élémentaire. Bon, depuis, ce système de régulation a volé en éclats. Le tiers-monde s'est trouvé en position de plus en plus affaibli et donc il subit totalement la loi des spéculateurs. Je le rappelle, je le rappelais déjà la semaine dernière, que les spéculateurs sont installés à Chicago, à la bourse mondiale des matières premières, et que c'est là qu'on fait joujou avec les cours en disant « Oh, vous allez mourir de faim, mais si vous payez ça, vous en aurez. Hein, » parce qu'on en trouvera toujours un petit peu, y compris dans des réserves. Ça, c'était pour le blé. C'était intéressant de le rappeler comme donnée, comme mode de fonctionnement du capitalisme et de la propagande dans laquelle nous sommes impliqués. Alors, pas d'incidence pour la France, puisque vous savez que la France est un exportateur de blé, qu'il n'y a donc pas de souci d'approvisionnement. Je ne suis pas sûr que les coopératives ou les gros agriculteurs de la Beauce et de la Brie ne profiteront pas de la hausse des prix, quand même, au passage. Et je n'ai pas entendu le gouvernement français dire qu'il allait faire attention à ce qu'on n'escroque pas les clients. Bon, mais sachez, alors réjouissez-vous, le commerce extérieur de la France va aller bien, au moins sur ce chapitre. Pour le reste, il n'est pas très brillant, mais sur le chapitre du blé, le commerce extérieur de la France se porte bien. Merci pour lui et merci pour ceux qui le fabriquent. Bien, je reste un petit peu dans cette zone-là du monde pour vous parler d'un litige marin territorial entre le Liban et Israël.
Ah,
c'est une vieille affaire qui ressort ces jours-ci, puisque vous savez qu'on a trouvé des quantités très très importantes de gaz naturel dans les eaux sous-marines donc de la Méditerranée orientale, que d'ores et alors que chacun a essayé de délimiter, suivant les règles de la Convention générale du droit de la mer, la zone dans laquelle il est chez lui, dans sa zone d'exploitation exclusive. Israël a délimité sa zone, qui s'arrête à la zone libanaise, bien entendu, plus au nord. Et donc, Israël a déjà commencé à exploiter un gros gisement et a déjà commencé à s'approvisionner et à même à vendre du gaz. Il a beaucoup moins profité de cette nouvelle source de gaz que l'Égypte, par exemple, qui a mis en service un énorme gisement dans sa zone sans contestation, mais la contestation vient du voisinage entre la zone libanaise et la zone israélienne. Alors c'est un vieux problème, puisque en fait, il a été posé il y a déjà au moins 2 ans, qu'il y a eu des négociations qui n'ont pas abouti, parce que ce qui se passe, c'est qu'Israël, en gros, voudrait bien pouvoir, j'allais dire affamer, c'est pas tout à fait le mot, mais priver le Liban du gaz qui est dans ses eaux sous-marines, et donc il n'y a pas eu d'accord. Et il y a une tension qui monte, puisque le Liban veut faire venir des navires spéciaux pour faire des forages, des recherches, etc. Et Israël menace de les empêcher de travailler. Menace manu militari, avec des bâtiments de guerre.
Ils y sont.
Voilà, ils y sont. Ouais, c'est, oui. Voilà,
tout à fait. Ils y sont déjà, ils ont commencé. Et en même temps, le gouvernement libanais...
Oui.
Ils se sont réunis et ils attendent, je crois, un Américain qui devait venir et discuter de ce problème maritime.
Voilà, parce qu'il peut y avoir un arbitrage.
Ils ont essayé déjà de rentrer dans cette zone et commencer à explorer.
Tout à fait.
Voilà.
Voilà. Alors, ils attendent effectivement un arbitrage parce qu'il y a une juridiction internationale qui s'appelle la Cour internationale de justice qui peut trancher ce genre de problème. Le problème, c'est qu'elle ne les tranche pas en 15 jours. Non. Et donc, il vaut mieux qu'il y ait un arbitrage et qu'il y ait quelqu'un qui dise « Bon, effectivement, là, c'est le Liban et là, c'est Israël, enfin, côté mer. Bon. » Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à cette occasion, le gouvernement libanais montre de la fermeté.
C'est ça.
Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que maintenant, il y a un Premier ministre, le président, on le connaît, il n'a pas changé. Et donc, le gouvernement libanais est sur une position très, très ferme. Et il s'ajoute à la position du gouvernement, il y avait une position du Hezbollah qui n'a pas donné de détails, mais qui a dit, s'il faut intervenir, comptez sur nous.
Ouais, c'est ce qu'il
alors, on peut tout imaginer, mais le Hezbollah n'est pas connu pour raconter des histoires et pour faire croire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Donc je ne crois pas, les services secrets le sauraient, que le Hezbollah ait des sous-marins, mais les drones sous-marins, ça existe, les drones aériens, ça existe. Les fusées aussi. Et donc effectivement, il y a une possibilité d'intervention militaire qui a été mise en avant par le Hezbollah. Donc je pense qu'effectivement que la venue de l'émissaire des États-Unis tient compte de ces données du problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut trouver un arbitrage et permettre au Liban d'avoir accès au gaz qui est sur son territoire sous-marin.
viendra.
Un jour viendra, je fais un clin d'œil à Habib, un jour viendra où il faudra bien que le gouvernement syrien se mette à exploiter les énormes quantités de gaz sous-marin qui sont au large des côtes syriennes. Ouais, alors pour l'instant, il a d'autres chats à fouetter, si j'ose dire.
La construction, de la Syrie. Ouais.
Mais ça, c'est quelque chose qui se passera. Et là, il faut savoir que les ressources sont considérables.
Il faut se rappeler qu'en 2006, M. Nasrallah, il a dit, regardez cette navire de guerre qui se rapproche de la frontière libanaise. Vous allez voir, dans quelques secondes, elle va être détruite. Il faut se rappeler, donc, il a une vraie capacité.
Ouais. Et un véritable arrêtement, puisqu'on parle de la guerre de 2006. Je rappelle, pour donner l'ordre de grandeur et les problèmes tactiques de la guerre de Hezbollah contre l'armée israélienne, ce qui se passait, c'est que donc, le Hezbollah tirait des missiles à courte portée sur Israël. Et les gens qui avaient tiré avec le matériel léger avec lequel ils avaient tiré ces missiles avaient 30 secondes pour s'en aller, pour déplacer l'objet. Exactement. Parce que autrement, la cible était détectée par l'adversaire et la riposte était quasi... Il y avait 30 secondes. Donc, il fallait s'en aller très très vite.
Ils étaient entraînés pour faire ça.
Ouais. Et donc effectivement, Israël a riposté, il n'y avait plus personne en face. Mais c'était à ce rythme-là et c'était prêt. C'était prévu, ils étaient entraînés, ils l'ont fait. Voilà, c'est très important à rappeler. Puis alors, je vais vous faire...
Et d'ailleurs, actuellement, il y a une grande manœuvre israélienne qui dure pendant un mois. Et cette manœuvre, justement, ça a un rapport, il me semble, avec le problème de gaz.
Voilà, et Israël rappelle que lui, il a des sous-marins, sous-marins fabriqués très gentiment par l'Allemagne, qui essaie de se faire pardonner les crimes du nazisme d'une façon un peu étrange. Bon. Sur le dos des Libanais et des Syriens. Mais ça, c'est tout autre chose. Alors, je vais vous faire voyager très, très loin, mais quelques... Vas-y, Habib. Alors, est-ce que vous connaissez Timor-Leste ? Alors, Timor, comme l'île, L-E-S-T-E, c'est un pays assez nouveau qui a une des dernières décolonisations. C'était un morceau donc, de l'Indonésie qui était une colonie portugaise. Donc la colonie portugaise, quand le Portugal est sorti de la dictature, est devenue indépendante. Et en fait, l'Indonésie n'a pas accepté qu'il y ait la partie donc, de l'île de Timor, qui est donc l'est de l'île de Timor, qui devienne indépendant et qui devienne portugais et qui surtout reste chrétien. Bon, ça a beaucoup choqué l'équipe au pouvoir à Jakarta. Et donc, pendant 20 ans, Timor-Leste a été occupé par l'armée indonésienne, a été maltraité. Ça s'est très, très mal passé. On ne l'a pas beaucoup su parce que c'était un peu loin, etc. Mais depuis, donc, le pays est indépendant et il est réellement indépendant. L'armée indonésienne l'a lâché. Et il y a un nouveau venu. Alors, regardez l'endroit. C'est-à-dire, vous êtes à l'extrémité est de l'archipel indonésien. Vous êtes pratiquement au cœur de la zone Asie-Pacifique, avec tout au-dessus la Chine, le Japon, l'Australie en dessous, la Nouvelle-Zélande et tout. Vous êtes à un endroit stratégique. Qui est-ce qui est en train de s'installer à Timor-Leste ? Allez, je prends les paris. Vincent Bolloré va installer le nouveau port à conteneurs de Timor-Leste, c'est-à-dire qu'il va investir les capitaux qu'il a retirés d'Afrique pour faire beaucoup d'argent et pour être en position de monopole dans la zone la plus importante. Et on avait dit, Bolloré, il se désintéresse du transport maritime, et il s'intéresse aux médias, il gagne son argent ailleurs et tout. Non, l'équipe Bolloré, qui a quand même un savoir-faire professionnel en matière de transport international, elle dit, ça c'est une occasion à ne pas rater. Et du point de vue du gouvernement de Timor-Leste, c'est faire appel à un investisseur étranger qui connaît le métier, qui n'est pas soupçonnable d'amitié avec le gouvernement indonésien. Et donc, c'est effectivement un très, très bon choix. Donc, c'est très profitable, je pense, pour M. Bolloré et sa compagnie. Et c'est astucieux du point de vue du gouvernement de Timor-Leste. Donc, pensez-y, Bolloré ne perd jamais le Nord et il ne perd jamais un centime dans des opérations Donc c'est une nouveauté puisqu'il est en train, petit à petit, il est en train de vendre tous ses terminaux à conteneurs sur la côte de l'Ouest africain, sur la côte de l'Est africain aussi d'ailleurs. Et là, il se dit que c'est un endroit où il sera en position forte de monopole et où donc il gagnera sans doute beaucoup plus d'argent que ce qu'il gagne à l'heure actuelle en Afrique. Et puis il sera peut-être en plus moins impopulaire qu'il ne l'est en Afrique aujourd'hui, puisque vous savez, et c'est probablement aussi une des raisons de son retrait, qui commençait à être assimilé à la France néocoloniale et qu'il était plutôt mal vu sur les terres africaines depuis un certain temps. Bon, là, je ne pense pas qu'il y aura de manifestation de la population de Timor qui est très contente de sortir de l'occupation indonésienne, d'essayer d'avancer dans son existence nouvelle. Voilà. Et puis, je voulais vous parler... Alors, les petites nouvelles... Non, il y aura une grosse nouvelle. Je vais passer un certain temps à vous parler du groupe de Bilderberg. Alors, il s'est réuni, comme il se réunit d'ailleurs tous les ans, mais cette fois, c'était à côté de Washington, aux États-Unis, donc à la fin de la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que le groupe de Bilderberg ? C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup abordé ici, mais il faut le rappeler. Bilderberg, c'est le nom d'un hôtel, à l'origine, dans une petite ville des Pays-Bas, qui s'appelle Utrecht, où se réunit, on est en 1949, un groupe qui est destiné à faire s'embrasser sur la bouche, je simplifie, ce n'est pas diplomatique, les États-Unis, et ce qui n'est pas encore l'Union européenne, mais ce qui est en germe dans le marché commun, et dans l'OTAN nouvelle et dans le pacte atlantique. Bon. Il s'agit donc de serrer les rangs autour d'intérêts communs, c'est-à-dire c'est de mettre sur pied un organe qui fait partie de la politique atlantiste, qui fonctionne toujours, puisque vous savez que du côté ouest du continent européen et du côté des États-Unis et du Canada, on considère que l'Atlantique est un lac et qu'au fond, on est amis quand on est d'un côté ou à l'autre de ce lac. C'est comme ça que ça se passe. Ce groupe de Bilderberg réunit toute une série de gens importants qui se réunissent à huis clos, pendant 2 ou 3 jours, dans un endroit en général assez confortable, qui traite un certain nombre de sujets d'actualité et qui ne font aucun commentaire sur ce qu'ils ont décidé. Alors, on sait qu'à l'ordre du jour, ben, y a les sujets de l'actualité, d'ailleurs, ce n'est pas très sorcier, mais il n'y a pas de commentaire. Et en plus, il y a des règles qu'on appelle les règles de Chatham House, des règles élaborées par les Britanniques, disant que toute personne qui a participé à une réunion de Bilderberg s'engage à ne pas dire qui l'y a rencontré, ce qu'il lui a dit et ce qui s'y est dit.
Tout ce qui a été dit.
Voilà. Donc, il s'agit d'une réunion de famille. Hein, on a fêté, on a ajouté une nouvelle bougie sur le gâteau anniversaire de Bilderberg. En fait, c'est plus subtil que ça.
Donc, pas de journalistes.
Alors, des directeurs d'un certain nombre de journaux, à condition que ce soit les bons. Alors, je vais en prendre 2. The Economist, pour les journaux de langue anglaise, et le groupe Springer, pour la presse allemande. Donc, on a du lourd, comme on dit. Ça, ceux-là, ils sont invités, parce qu'on est sûr qu'ils ne diront pas de bêtises sur l'Alliance Atlantique, qui sont des amis fidèles, et qui même seront là. Alors, l'intérêt d'avoir ce genre de journal et de journalistes sur place, c'est qu'au contraire, eux vont donner écho à des campagnes d'opinion qui peuvent être décidées à ce moment-là par les participants. Ils vont être là. Hein. C'est ça qui est intéressant.
C'est secret.
Oui, c'est ça qui est très intéressant. Alors, de quoi il s'agit ? Alors, il a longtemps été question de dire « mais Bilderberg, c'est une zone de complotistes hein, ». Et c'est les gens qui décident vraiment, qui se retrouvent là pour décider. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est trop simple de le dire comme ça. Il s'agit d'un endroit où on se met au diapason. C'est-à-dire, imaginez que, oui, on peut prendre la comparaison d'un orchestre. Il faut répéter pour que le premier violon soit bien d'accord avec le premier flûtiste, avec le monsieur qui tient la timbale, etc. Mais au fond, la partition, ce n'est pas ceux qui sont là qui l'ont écrite. C'est ça qui est tout à fait important. Par contre, on se met d'accord sur la mise en musique. Et on se dit si, comment on va faire, quelle position il va falloir prendre sur tel ou tel sujet, etc. Donc, ce n'est pas, du complot, c'est la mise en œuvre d'une politique qui a été décidée, qui est déjà décidée par une série de gouvernements ou d'institutions, pour mettre un peu en harmonie, pour que l'orchestre joue juste. C'est-à-dire qu'on soit sur la même harmonie entre tous les participants. Ce qui explique la composition des délégations à Bilderberg. Il y a d'une part des politiques, qui sont des ministres des Affaires étrangères. Il y a le roi des Pays-Bas, puisqu'on doit aux Pays-Bas l'initiative de ce club. Il y avait, alors là c'était très intéressant, il était venu, et c'était pas fréquent, c'était même inhabituel, la première ministre, madame la première ministre de Finlande. Pourquoi elle était là ? Mais pourquoi elle était là? Parce que vous avez bien compris qu'il est question que la Finlande rentre dans l'OTAN. Et donc, elle était venue sans doute parler avec M. Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui était là aussi, comme par hasard, pour parler de la façon de faire passer, parce que la population finnoise est à moitié d'accord pour accepter ce changement. On sait qu'il risque d'y avoir des difficultés au sein même des membres de l'OTAN, mais elle était là pour essayer d'accorder les violons avec M. Stoltenberg, pour faire avaler la pilule. En gros, c'était ça. Alors, elle est assez pour, mais elle sent bien que ça ne va pas se faire tout seul, et ils ont dû en parler beaucoup. Alors, comment ils ont fait pour en parler? Alors, là aussi, ça fait partie du fonctionnement de Bilderberg, parce qu'il y a les séances plénières, où on a des sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, et puis il y a les coulisses. Il y a les coulisses. Donc, si à 20h, je ne sais pas les heures, j'y suis jamais allé, je n'ai pas été invité, puis je ne penserai jamais invité à Bilderberg, mais si à 20h, une fois qu'ils ont fini de boire leur whisky du soir, M. Stoltenberg prend par Madame la ministre, la première ministre finlandaise, par la main, et qu'ils se mettent dans un petit salon pour discuter des difficultés de l'insertion de la Finlande dans l'OTAN, bien ça, ils peuvent le faire, et ils peuvent passer 3 heures à en discuter. Et ils le font dans des conditions qui sont exceptionnellement favorables. C'est-à-dire que même si, avec tous les réseaux cryptés que vous voulez, tous les zooms que vous imaginez et tout, il y aurait très bien pu avoir un dialogue entre cette première ministre et M. Stoltenberg. Mais là, on est au niveau de relations de personne à personne. On peut se donner des secrets de fabrication. On peut se faire des confidences. Hein, on peut préparer des coups. Tout ça, ça fait partie de Bilderberg aussi. Hein. C'est donc un facilitateur. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent, et c'est vrai dans notre vie de tous, des choses qui se passent en face à face quand on a quelqu'un avec qui on discute, et des choses qu'on ne dit pas au téléphone, hein, même si on n'a pas peur du téléphone. C'est exactement ça, Bilderberg. Donc, c'était pour expliquer le climat. Alors, j'ai retenu un certain nombre de noms. J'ai la liste des 150 participants. Pour dire, oui, alors pour dire que, d'une part, parlons français, enfin parlons pour les Français, mais ce n'est pas très important, puisqu'au fond, je pense que lié à la période électorale dans laquelle on se trouve, la représentation française était très faible. Il y avait 2 banquières, qui sont des habitués, qui donc gèrent des fonds de placement, qui sont des habitués de ce genre de réunion. Il y avait, comme représentant politique, il n'y en avait pas, mais il y avait le directeur général du ministère des Armées. Voilà. Donc un général avec autant d'étoiles que nécessaire qui était là, tiens, pour parler peut-être avec M. Stoltenberg, qui sait, hein, des éventuelles activités de l'armée, des armées de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, je m'arrête à d'autres noms intéressants, donc je disais économiste. Et il y avait un increvable des réunions de Bilderberg, c'est Henry Kissinger. 98 ans, qui était encore là. Il était là. Alors, il venait en voisin. Bon, c'était moins fatigant, mais il était là.
Mais il a parlé l'autre jour,
mais oui,
hein,
mais oui, alors,
en disant aux Américains, attention,
mais oui,
vous
tout à fait. Alors, ça fait. Alors, je m'arrête sur Kissinger 2 minutes, parce que vous savez que la semaine d'avant, il était intervenu dans le forum de Davos.
C'est ça.
Et il avait tenu un discours qui était très étonnant, puisque, en fait, à l'inverse de George Soros, qui a fait un discours jusqu'au boutiste, atlantiste, on va gagner, on va écraser la Russie et la Chine au passage et en une seule opération, pourquoi pas, allez-y, courage camarade Soros. Mais Kissinger avait dit, il faudrait peut-être commencer à négocier. Alors ça avait beaucoup frappé, il avait même parlé de cession de territoire. Et à mon avis, s'il l'avait dit, c'est qu'il était en train d'annoncer à la planète entière, et probablement au gouvernement des États-Unis, et probablement au chef de l'OTAN, que la situation militaire ne permettait pas d'avoir des exigences très très élevées par rapport à la Russie, et qu'il valait mieux négocier avant qu'il soit trop tard, avant que les succès militaires de la Russie sur le terrain soient trop évidents, et que la Russie, à proportion de ses succès, devienne trop gourmande. C'était ça l'intervention de Kissinger. Ce n'était pas une intervention de pacifiste.
Non.
Il faut se souvenir que dans la longue carrière, très longue carrière de Kissinger, il est un monsieur, j'allais parler ça, un hyper réaliste qui sait toujours mesurer un rapport de force à un moment donné et qui dit là, bon, on est très costaud, mais ce n'est pas la peine, là, on ne passe pas, donc tempérons, abaissons le ton, trouvons un modus vivendi temporaire, après, on reprendra notre politique quand on se sera refait une santé, mais ce n'est pas le moment. Là, on perd plus qu'on ne gagne, ce n'est pas raisonnable. Donc, c'est l'hyper-réaliste. Alors, il est capable à la fois de faire un coup d'État pour renverser Allende au Chili, ça, il le fait parce qu'il n'y aura pas d'obstacle, hein. Mais il est capable aussi d'aller voir les monarques saoudiens en disant, attention, n'en faites pas trop. Vous pouvez un peu augmenter le pétrole, mais il y a un moment, il faut arrêter parce que vous allez mettre tout le monde sur la paille. Donc, ça c'est du Kissinger tout pur, c'est l'hyper-réalisme. Avec un sens très aigu des intérêts à très long terme de la puissance américaine, mais qui sait qu'à des moments, ben, on ne peut pas passer en force parce qu'il y aurait plus de pertes que de profits à mener une opération trop brutale, soudaine, mal préparée, etc. C'est exactement ce qu'il est venu dire à Davos, rien d'autre. Alors ça a surpris, mais c'est un discours qu'il doit continuer à tenir, et j'imagine que dans les apartés ou en sirotant son whisky, il a dû dire la même chose à beaucoup de gens, y compris même peut-être à Stoltenberg. Non, Biden n'était pas là, mais à Stoltenberg, il a pu lui dire, entre quatre yeux, camarade, il faudrait un peu se calmer parce qu'on va nulle part, là. Il y a un peu de ça. Bon, je voulais m'arrêter sur le personnage. Je me suis arrêté sur un représentant des États-Unis qui s'appelle Marie-Josée Kravis, ça ne vous dit rien. Alors, elle est quand même coprésidente des réunions Bilderberg, donc elle est dans la hiérarchie, puisque comme ça se produit d'une année sur l'autre, il faut sélectionner, trouver l'endroit, faire financer. Alors, je le signale que chaque réunion du groupe de Bilderberg est financée par le patronat du pays où se tient la réunion. Alors, si c'était en France, ça serait le MEDEF. Voilà, chaque fois, c'est le patronat. Bon, et cette dame-là, donc, qui est co-organisatrice, enfin, chef de Bilderberg, et présidente du musée d'art moderne de New York. Alors, il dit, bon, pourquoi pas ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, j'essaie d'interpréter, mais je ne sais pas, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire que la présidente du musée d'art moderne de New York se vient faire là au milieu de ses affaires stratégiques militaires ? Ça amène à des réflexions que je vous livre sur l'espèce d'intégration culturelle, c'est-à-dire qu'au fond, si des œuvres comme celle d'un certain peintre des États-Unis, je pense à Jackson Pollock, je ne sais pas si vous connaissez Jackson Pollock, non. Ce peintre états-unien qui a été lancé, disons, qui est venu sous nos cieux dans les années 50-60 et tout. Ce monsieur a été financé par la CIA. Bon, c'est connu, et on l'a su assez vite. Et donc, en fait, il y a une façon aussi d'acclimater les artistes des États-Unis sur le continent, l'autre partie, l'autre moitié de Bilderberg. Et donc, il y a un marché de l'art. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui circule sur ce marché-là. Hein, quand on s'achète un Van Gogh ou un Pollock, c'est des millions de millions. Hein, et donc, on a des surprises de ce genre-là. Je voulais vous le signaler. Ensuite, donc, je vous ai parlé donc, de la première ministre, Madame Sanna Marin, donc première ministre finnoise. Il y avait évidemment monsieur, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, Oksana Markarova, c'est l'ambassadeur, bon, c'est ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis. On ne peut pas faire moins à l'évidence. Il y avait aussi d'ailleurs le représentant de la compagnie ukrainienne de gaz qui s'appelle monsieur Yuri Vitrenko, hein, puisque la compagnie ukrainienne de gaz, ben, elle fonctionne, puisque l'Ukraine n'a pas de gaz, mais elle transporte ou elle voit passer sur son territoire d'énormes quantités de gaz.
Ils en profitent.
Russes jusqu'à présent, et on ne voit pas trop où ils le prendraient ailleurs. Pour l'instant, et donc elle fait payer le transit, hein, et elle prend une partie du gaz pour la consommation ukrainienne.
Merci, Lucie.
Voilà. Donc ils étaient là aussi, sans doute pour expliquer que il fallait quand même éviter que ça se termine mal et qu'il y ait des trous dans les tuyaux et qu'il y ait plus de gaz russe parce que eux c'est leur recette qui se joue là.
Hein.
Donc on a dû parler de choses très très sérieuses. C'était tellement sérieux qu'il y avait aussi Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total, et il y avait aussi le patron de l'Enel, donc qui est l'équivalent donc italien de, en gros, ce qui serait EDF pour faire simple. Ensuite, alors il y a des gens qui se greffent là-dessus. Je vous ai parlé du roi des États-Unis, il n'y a pas de souci. Le président du Conseil européen,
le roi des Pays-Bas.
Pardon, voilà. Excusez-moi. Oui. Lui, il est là parce que il est le créateur. Enfin, lui, pas lui, mais sa maman. Donc, on ne peut pas le mettre de côté. Et je voulais vous signaler, donc, il y avait aussi le premier ministre néerlandais, le ministre des Affaires étrangères néerlandais. Donc, c'est tout à fait important. Il y avait aussi le président de Google, Le président, oui, oui, bien sûr. Il y avait le président, alors attendez, qui j'ai noté ?
J'ai vu Goldman Sachs.
Oui, aussi, bien sûr. Alors, il y avait aussi l'ineffable, Antonio Manuel Barroso. Ça vous dit quelque chose, donc, ex-premier, alors, ex-maoïste du temps où il était étudiant, maoïste stipendié par les États-Unis. Parce qu'il y avait d'autres maoïstes qui étaient des vrais maoïstes sincères. Lui, c'était un maoïste fabriqué par l'ambassade des États-Unis. C'était histoire d'enquiquiner le parti communiste portugais qui était trop proche des soviétiques. Bon. Donc, M. Manuel Barroso, donc après être sorti de ce maoïsme d'opérette, puisqu'il était financé par une puissance étrangère, est devenu, après un certain temps, il est devenu donc Premier ministre portugais. Et comme il était, vous l'imaginez, vu ce que je viens de dire, bien en cours, on l'a retrouvé très très vite à la présidence de l'Union européenne.
C'est formidable.
Voilà. Il y est resté donc pour plusieurs mandats. Et quand il a eu fini ses mandats, il s'est dit « qu'est-ce que je vais devenir ?» Et tout d'un coup, c'est comme l'ange exterminateur qui arrive, on lui a dit « tu viens chez Goldman Sachs ». Il est aujourd'hui directeur international de Goldman Sachs. Vous voyez, comme quoi on peut être maoïste à 20 ans, et puis on s'en sortirait tout à fait bien. Quand on n'est pas un vrai maoïste, il suffit de ne pas être un vrai maoïste. Bon, il était là lui aussi. Dans les gens qu'il fallait suivre, je vous signale qu'il y avait aussi deux présidents de laboratoires pharmaceutiques.
Ah,
Et oui, vous savez que Covid, variole, enfin vous imaginez qu'il y a quand même du business en préparation. Il y a eu un énorme business et puis il y a un énorme business qui se prépare. Il y avait deux PDG et le premier d'entre eux, c'était M. Pourla, le PDG de Pfizer. Ah. Il était là. Alors peut-être, on connaît les résultats financiers de Pfizer qui sont brillantissimes, il n'y a pas de souci, mais peut-être pour préparer un autre vaccin pour autre chose, au cas où. Hein, et pour dire,
la gale des singes.
Voilà, par exemple. Et pour dire à toute cette assemblée, à cette noble assemblée, bon, pensez à moi, mais on y travaille. Et peut-être qu'il aura même eu des tuyaux de gens. Parce qu'il y avait aussi la fondation Microsoft qui était là.
Ah, ouais,
peut-être qu'il aura eu des infos en disant là, on voit venir un petit animal avec un virus bizarre, etc. Vous devriez mettre vos labos sur l'affaire. Voilà comment on prépare l'avenir du grand capital. Et puis il y avait un autre laboratoire pharmaceutique, il n'y avait que deux, il y avait donc Pfizer et Glaxo, qui est un des gros américains. Qu'est-ce que je voulais rajouter ?
Pfizer, il est.
Pfizer, oui, Pfizer. Alors,
il est allemand, hein ?
Non, si on revient là-dessus, alors un petit mot, mais rapidement je raconte. Donc, au moment où se déclenche l'épidémie de coronavirus, que tout le monde connaît, il y a un laboratoire allemand qu'on a appelé une start-up qui n'est déjà plus une start-up, qui était déjà une boîte bien installée avec des financements, mais organisée en Allemagne avec des capitaux allemands et une capacité scientifique et technique réelle, qui s'appelait. Je vais le dire, bon, peu importe. Ouais. Et donc, qui se met très vite à produire, à inventer un vaccin, alors à base, de, comme le vaccin de Pfizer, donc à base de. J'arrive pas à le dire. Bon,
non.
Bref.
Puis on ne peut pas t'aider, moi je ne peux pas t'aider là-dessus.
Non, celui qu'on a été, qui a été utilisé sous nos latitudes.
Ouais.
Et ce laboratoire se dit, moi je suis un laboratoire allemand, je sais faire, c'est-à-dire j'ai fait des médicaments dans ce type de médicaments pour des traitements contre certains types de cancers qui ont marché. Je maîtrise donc toute la chaîne de fabrication de ces produits-là, je sais faire, et il y a autour de moi en Allemagne les usines qui sont en capacité de produire un vaccin utilisant cette technique-là, cette technique génétique, puisque c'était ça l'idée. Bon. Et donc ils se disent, alors ce sont des capitalistes avisés, mais petits, ils se disent, si on veut couvrir le marché mondial, puisqu'ils démarrent à un moment où ils disent le marché mondial, ça y est, il est mûr, on va y arriver. Bon. On est trop petits, alors je raisonne comme si j'étais le PDG de cette société. Nous sommes trop petits pour imposer notre vaccin sur la planète entière. Mais potentiellement, si on arrive à trouver des alliés, on a un marché énorme parce qu'une dose, deux doses, trois doses, 8 milliards d'habitants, vous imaginez le bonheur. Bon. Et donc, voilà, bonsaï. Oui. Donc, ils se disent, bon, c'est bien joli, comment couvrir la planète ? Eh bien, il faut s'adresser à des laboratoires qui, eux, ont une capacité internationale, qui sont implantés partout, qui sont connus des gouvernements, qui connaissent les ministres de la Santé, qui connaissent les organismes de sécurité sociale, enfin, qui sont enracinés depuis des décennies sur ces marchés-là. Nous, nous sommes des nouveaux. Donc, ils sautent dans un avion, ils vont aux États-Unis, ils vont chez Pfizer en disant « Ok, voilà, voilà notre produit, testez-le, dites vous êtes, si vous êtes d'accord pour mettre votre marque dessus et on couvre le marché, au moins international de l'Occident, à tous les deux. » Et ils font la même démarche côté Hong Kong. C'est-à-dire, ils trouvent aussi un labo qui est en capacité d'eux. Il se trouve qu'à Hong Kong, ils étaient en capacité d'eux, mais à Pékin, on dit « Non, non, ça, on le fait nous-mêmes, le vaccin. On ne veut pas du vôtre. » Et donc, la Chine met au point ces deux vaccins qui répondent à une technique vaccinale beaucoup plus classique, qui ne sont pas des vaccins génétiques. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et il faut savoir donc, que les résultats de Pfizer pour les deux exercices financiers écoulés sont fabuleux. Au point, enfin, fabuleux, et il faut savoir pourquoi ils vont être fabuleux, c'est que le vaccin qui a été vendu, donc il faut savoir que, et c'est à ça que sert aussi une réunion Bilderberg, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Quand l'Union européenne, à l'Agence européenne du médicament, hein, qui a statué, a dit « moi, je choisis le vaccin Pfizer », ils n'ont pas fait, parce que les gens qui étaient dans cet endroit-là, ils n'ont pas un laboratoire sous les yeux et tout, ils ont travailler en confiance. En confiance, ça veut dire on leur a dit, c'est Pfizer, gros morceau, de grosse capacité industrielle, etc., qui a fait un bon vaccin, avec l'aide des Allemands donc, que je citais, c'est très bien, on va les prendre. Bon. Et à ce moment-là, quand ils ont dit on va les prendre, Pfizer a dit, mais c'est $1 la dose.
Bon. Ouais, ouais.
Hein, bon. Alors, tout simplement, alors les chiffres, je les ai trouvés dans des périodiques scientifiques des États-Unis, des chiffres des périodiques sur la santé. Le vaccin a été vendu autour de $18 la dose à l'Agence européenne du médicament. Et les journalistes d'investigation des États-Unis qui sont allés voir un peu dans les comptes, qui se sont renseignés et tout, parce qu'il y a une chaîne d'approvisionnement, il y a toute une série d'usines pour fabriquer ce type de vaccin, ça se fabrique comme ça. Ils disent qu'entre 2 et 3 dollars, on était au bout du prix de revient.
Hein. Et donc, quand on appelle génétiquement, ça veut dire que ce vaccin peut laisser après des séquelles ou non ?
Alors, il y a débat là-dessus.
Ah, ouais, d'accord.
C'est un vaccin qui intervient à l'endroit où normalement le virus va venir t'infecter. Et s'il va au bon endroit, le virus ne peut pas attaquer la partie de ton ADN qui va être attaquée par le virus. Le virus, il se met pas partout chez toi. Il cherche des endroits où il peut prospérer, se développer, etc. Et on savait qu'il visait un endroit particulier de l'ADN de l'individu. L'ADN. Et donc, en traitant cet endroit-là...
Sur la protéine, quoi,
voilà,
je crois. Oui.
En traitant cet endroit-là, on arrivait à dire ben, « il ne rentrera pas ». Alors après, il y a un débat sur s'il y a des suites, si effectivement ça s'élimine pas. Alors je ne rentre pas là-dedans, ça serait une autre émission. Ouais. Mais retenons que c'est pour ça que c'est très intéressant, pour que l'Agence européenne de médicaments dise, quand elle voit arriver Pfizer avec son vaccin qu'il n'a pas inventé lui, dise « ok, les yeux fermés, on vous prend, quel que soit le prix ». Alors il faut savoir qu'au début, d'ailleurs, il a été interdit de dire le prix auquel l'Agence européenne du médicament avait acheté, puisque ça, on a dû la réalité du chiffre qu'à une fuite d'une ministre belge qui a fait un lapsus à la télévision. Non, mais au prix où c'est, ils exagèrent. Hein. Elle n'aurait pas dû, elle a été grondée, et c'était trop tard, c'était dit. Donc voilà à quoi servent une réunion Bilderberg.
Je peux rajouter d'autres participants ?
Oui, vas-y.
J'ai vu qu'il y avait le directeur de AXA. En France.
Oui, alors, AXA. AXA, très, très intéressant. Ouais. Alors, le directeur d'AXA, qui est un nouveau, puisque le directeur précédent a pris sa retraite, mais AXA a toujours joué un rôle très, très important dans toute l'organisation du Bilderberg, côté européen, d'ailleurs, pas que ça. Et il faut savoir que, et c'est là que c'est très important pour nous, citoyens français, si AXA arrivait à avoir une oreille politique suffisamment attentive au gouvernement et décider « la sécurité sociale, je la gère moi-même hein, », on imagine le désastre. Bon. Voilà. Et donc, c'est bien ça qui se joue. C'est bien ça qui se joue. Alors, ça se joue pas d'un seul coup, mais aussi bien, il pourrait y avoir une filiale d'AXA dans un système de gestion des pensions de retraite à l'automne, quand le nouveau gouvernement aura continué à faire les dégâts qu'on attend de lui. Tout ça. Donc, AXA est toujours... Alors, AXA, c'est un des premiers assureurs mondiaux.
Ouais. Hein,
est toujours à l'affût d'un nouveau marché. Et surtout, d'y arriver tout seul en n'ayant pas de concurrent. Mais en général, ça se fait sur les décombres de systèmes sociaux collectifs comme la sécurité sociale. Alors, quand vous voyez arriver avec ça, méfiez-vous, hein, la sécurité sociale, ils n'ont qu'une envie, c'est de la faire disparaître. Alors, c'est un peu embêtant, c'est difficile, ça ne se fait pas d'un seul coup. Il y a des défenseurs, y compris quelquefois même dans l'appareil d'État, mais c'est très important de le savoir.
Donc, il y avait aussi Total Energy.
Voilà, Pouyanné, je l'ai dit, voilà. Qui était là.
L'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis.
Voilà, c'est ça.
J'ai vu qu'il y avait le groupe Ryanair.
Oui. Alors, ouais.
Bon. C'est le seul de cette catégorie.
Ouais.
Erdogan était là aussi. Il est noté dans la liste que j'ai là.
Et j'ai pas, je pense que c'est un homonyme.
Ah d'accord.
C'était pas le.
J'étais étonnée aussi.
Non, je pense que c'est un homonyme.
Et je vois Heineken, le groupe Heineken.
Oui, parce que. Là, bon, ils voient peut-être pas que du whisky.
Non, j'ai trouvé ça étonnant.
On peut imaginer.
Et dans le programme, je lis qu'il y a un sujet sur la perturbation du système financier mondial.
Donc, alors,
je trouve ça intéressant par rapport à ce qui se passe par
là. Alors, abordons ce sujet-là maintenant. Alors, donc voilà le cas de Bilderberg. On se met au courant, on échange des propos, on prépare des coûts financiers, boursiers, des rachats, des crises militaires. Enfin, tout ça se prépare. Mais les décisions, in fine, elles ne sont pas prises là. C'est-à-dire, on élabore, on se met d'accord, et les gens qui sortent de là savent en gros quel est le calendrier des actions collectives du grand capitalisme occidental pour l'année qui vient. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est une espèce de feuille de route collective. Hein. Mais ce n'est pas eux qui vont l'appliquer. Enfin, chacun dans sa partie l'appliquera. Mais il y a au-dessus des gens qui ne viennent pas, qui vont appliquer, qui vont prendre les décisions correspondantes, qui sont le président de l'Union européenne, le président des États-Unis, Barroso et Goldman Sachs et quelques autres. Et on a parlé finance. Alors pourquoi on a parlé finance ? Parce que vous avez tous entendu dire qu'on parle d'inflation et du retour de l'inflation. Alors on en parle un peu moins en France, qui est pour l'instant relativement un peu moins touchée que d'autres. Mais l'inflation aux États-Unis est au niveau de 8-9%. C'est très, très important, historiquement très, très important. Et ça menace de continuer, puisque il n'y a pas que la spéculation sur le blé, il y a la spéculation sur à peu près toutes les marchandises. Donc ça se ressent très, très rapidement. Et nous ne sommes pas dans des économies où l'État a un pouvoir de régulation. Enfin, il fait croire, mais il ne régule pas grand-chose. Donc, effectivement, une décision d'un secteur particulier capitaliste de l'économie est appliquée, et puis elle s'applique, et puis voilà. Alors après, on a ce brave Castex, je vais verser une larme sur Castex, qui vient en disant « Allez, je te donne 100 balles, allez, je te donne 100 balles », etc. Bon, mais ce n'est pas à l'échelle. C'est évidemment pas à l'échelle, mais il faisait ça parce qu'il était en campagne électorale, on l'avait compris. Lui, il était en campagne de rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce pauvre monsieur Castex. Mais il a distribué un peu de monnaie comme ça avant de s'en aller pour faire passer certaines pilules. Mais arrêtons de rire. La réalité, c'est que l'épidémie du Covid a donné lieu à une inflation monétaire considérable. C'est-à-dire que, en particulier, la Banque centrale, la Banque fédérale des États-Unis, a mis sur le marché des milliers de milliards de dollars, mais au niveau d'une vingtaine de milliers de milliards de dollars. Bon. Quand vous mettez tout cet argent en circulation et qui ne va pas dans les poches des consommateurs, cet argent, on dit, c'est des capitaux flottants. Alors ils flottent un certain temps, puis à un moment donné ils atterrissent quelque part, et donc on a affaire à des mouvements spéculatifs. Puis vous avez des gens, donc des fonds de pension, des banques, etc., des entreprises qui se trouvent avec de l'argent dont ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils n'ont pas besoin d'augmenter leur production pour des usines, parce qu'il n'y a pas assez de clients de toute façon. Donc c'est de l'argent dangereux, c'est de l'argent qui va un peu n'importe où. C'est pour ça que vous avez des espèces d'oscillations en bourse. On dit, ah, il y a un tel coup intéressant, il faut investir sur telle chose, on y va, puis on s'aperçoit que c'est pas si bien, donc on repart, on va d'un autre côté. Bon, c'est de l'argent flottant. Mais c'est lui qui fabrique l'inflation. C'est ces milliers de milliards de dollars qui ont été mis en circulation par la Banque fédérale, on a appelé ça le quantitative easing, bon, peu importe, hein, qui sont libres sur le marché et qui suscitent donc la hausse. Puisque, effectivement, ces capitaux flottants disent, à tel secteur d'activité, il faudrait le racheter. Hein. Mais ils ont tous la même idée au même moment. Et donc, celui qui rachète, c'est celui qui met le plus gros paquet d'argent sur la table. Hein. Et donc, les autres, ils vont chercher autre chose. Ils ont raté ce coup, ils vont en essayer un autre. Bon. Il faut savoir que la Banque Centrale Européenne a pratiqué de la même façon, à des niveaux un peu moindres. C'est-à-dire que toutes les aides, et tant mieux, elles sont parvenues et on a évité beaucoup de faillites dans beaucoup d'entreprises françaises, toutes les aides qui ont été distribuées dans les restaurants, dans les hôtels, dans les entreprises et tout, parce qu'il y avait effectivement une baisse d'activité, ils sont venus du fait que cet argent ne coûtait rien. On est encore aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas aux États-Unis, on est encore aujourd'hui dans des taux négatifs. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne prête aux banques de l'argent qu'elles ne rembourseront pas intégralement. Un taux négatif, ça veut dire je vous prête 1 000 dollars et vous me rembourserez que 990, et dans 5 ans. Hein. Donc c'est l'argent facile. Hein. Ouais. Bon, donc on en est là. Mais pour l'instant, l'Europe n'a pas bougé. Ce qui vient de se passer, c'est que la Banque fédérale des États-Unis a commencé à dire mais il faut arrêter. Ils ont se rendu compte qu'effectivement c'était très dangereux, que ça suscitait une inflation importante. Ils ont commencé à rehausser les taux. C'est-à-dire, au lieu de faire des taux négatifs, maintenant une banque qui emprunte à la banque centrale, à la banque fédérale, va devoir payer un vrai taux d'intérêt. Bon. Mais, ça a une conséquence très très importante, c'est-à-dire que les capitaux qui se baladent, ils disent « Ah, mais si la banque fédérale rémunère maintenant l'argent, je vais acheter des bons du Trésor à la banque centrale des États-Unis, la banque fédérale, puisque là, je gagne de l'argent, puisque l'intérêt sera payé. Il n'est pas négatif. Bon. » Donc, on a un gros, gros mouvement de désordre dans le système international qui donne lieu donc, à tous ces désordres sur les marchés, tous les marchés possibles.
Et tous les pays pauvres, surtout, voilà. Qui vont subir les conséquences.
Et voilà, parce qu'effectivement, la hausse des taux par la Banque fédérale va se répercuter sur les banques elles-mêmes. Et donc, tous les prêts vont devenir plus chers. C'est-à-dire, le FMI, quand il prêtera, augmentera ses prix. Tout le monde va augmenter les prix.
Et avec ce qui s'est passé en Russie, là, avec le fait que le dollar n'est plus la monnaie étalon...
Rouble,
ouais. Oui. Ça, ils doivent en parler aussi de tout ça.
Ouais, le rouble a pris de la valeur.
Ça les gêne en ce sens que le rouble a échappé à ces mouvements spéculatifs. Et que donc, par exemple, l'Inde qui va acheter du pétrole à la Russie, elle le paye en rouble. Ouais. Et elle n'est pas soumise à des fluctuations de la monnaie, à des taux d'intérêt qui varient, etc. Donc il y a effectivement... Oui, pardon. Il y a effectivement une espèce de découpage qui est en train de se faire sous nos yeux, mais qui ne se fait pas en 24 heures, du marché mondial des prêts et de la finance. Parce qu'il y a une partie du marché mondial qui va échapper au système dollar de ce fait. Puisque le dollar, ça fait vite, c'est un classique, quand il y a trop de dollars, trop d'une monnaie en circulation, sa valeur diminue.
Est-ce qu'on s'achemine vraiment vers une indépendance du dollar?
Oui, enfin, on s'achemine, mais d'abord, le dollar résistera. Voilà, bien sûr. Non, mais c'est bien ça qui se joue. Qu'il l'ait voulu ou non, c'est bien ça qui se joue. Mais c'est pas, ça ne se fait pas instantanément.
C'est vrai.
Voilà, donc c'était ça qu'il fallait expliquer rapidement, mais sur le système financier qui est en crise. Autre chose, je regarde tranquillement l'heure.
Ouais.
Alors, je voulais vous parler... je voulais vous parler rapidement d'une décision, puisqu'on parle des États-Unis et de leur politique, d'une décision qui a été prise il y a quelques jours, c'était le 29 avril, par le Congrès des États-Unis, très précisément par la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, oui, a passé un acte, on appelle ça un décret, si vous voulez, qui s'appelle Human Rights 73-11, et qui va être donc ensuite passé au Sénat pour devenir ensuite une loi applicable, et qui est destinée à limiter l'influence russe en Afrique.
Ah oui. Ouais.
C'est très intéressant.
J'ai entendu parler,
ouais. Voilà, c'est très très intéressant. Donc ça a été proposé par un parlementaire qui dit, ben voilà, il faut que nous donnions au département d'État, parce que tout ça va se terminer par un budget et des espèces sonnantes et trébuchantes, il faut que nous donnions au département d'État, donc notre ministre des Affaires étrangères, les moyens de contester l'influence perfide de la Russie sur le continent africain.
Et on le voit sur le Mali.
Voilà. Alors qu'est-ce qui a engendré ce projet donc, qui est déjà passé à la Chambre des représentants, qui va passer au Sénat, il y a guère de doute là-dessus. Il s'est passé que, vous vous souvenez, qu'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU sur la question de l'Ukraine, une quinzaine de pays africains ont refusé de condamner l'opération militaire russe dans le Donbass. Et donc, ces gouvernements-là sont l'objet de pressions extraordinairement fortes de la part des États-Unis. Et en fait, une fois qu'ils ont été grondés, ça a été fait, il y a eu des observations par les diplomates, les ambassadeurs et tout, mais il faut faire plus. Et donc, cette loi est destinée à mettre en circulation, une fois qu'elle sera approuvée, plusieurs centaines de millions de dollars qui vont permettre d'aller corrompre les dirigeants africains qui ont la mauvaise idée de travailler avec les Russes. Parce que c'est rien d'autre que ça. Et je repense à Bilderberg à ce propos-là, parce que qu'est-ce qui peut se décider aussi à Bilderberg ? Imaginez qu'on ait parlé du groupe Wagner qui va, je ne sais pas, s'installer en Angola ou je ne sais pas où. Ouais. Ben, imaginez que les gens qui se mettent d'accord à Bilderberg, donc le groupe Springer, The Economist et quelques autres et tout, disent...
Financial Times.
Voilà, Financial Times. Dès l'instant où Wagner envoie mais, 4 troufions, j'allais dire, à tel endroit, il faut que la planète entière le sache dans la journée. Pour dire, regardez, ça y est, les Russes ont envahi le Centrafrique. Mmh. Hein, c'est ça le but.
Et violent impunément.
Voilà. Hein, c'est ça le fonctionnement donc, des médias. Et donc ces campagnes-là sont prêtes. Et il suffit qu'il arrive le nom Wagner sur le pupitre d'un des rédacteurs en chef de ces journaux-là pour qu'immédiatement, il y ait un article circonstancié, à peu près le même d'ailleurs sur tous les supports, qui est destiné à dire « Wagner, c'est mauvais, parce que c'est les Russes bon. ». Et tout ça, ça va se financer, ces actions-là, ça va se financer avec les crédits qui vont être votés en application de cette loi. C'est-à-dire que M. Blinken, d'ici un mois ou deux, aura à sa disposition une centaine de millions de dollars pour acheter un journal burkinabé, pour acheter un journal ivoirien, pour corrompre un ministre ici ou là, pour faire une affaire, à la limite on peut faire aussi une affaire DSK, puisqu'on en a souvenir de l'affaire. Oui, tout est possible. Tout est possible hein, dès l'instant où il y a les moyens qui sont tout à fait officiels. Il ne s'agit même pas, voilà, il s'agit même pas de tricher. Non, non, il y a de l'argent pour corrompre, pour déformer, pour transformer des élus, des gens qui ont des postes de décision, en des gens soumis. Hein. C'est à ça. Alors, quand on vous parle de la corruption en Afrique ou ailleurs, on oublie de dire que c'est financé comme ça. Ce n'est pas M. X ou Y qui arrive avec ses économies. Non, non, c'est le département d'État qui a de l'argent pour acheter un rédacteur en chef de journal, pour effectivement créer, aider à fabriquer une imprimerie pour un journal neuf d'opposition, etc. Tout ça, c'est ça. Mm-hmm. Ce n'est pas simplement dit, tu devrais écrire un truc là-dessus. Non, non, c'est beaucoup plus organisé, structuré que ça n'en a l'air. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire à ce propos-là. Et je voulais vous dire deux mots, on va terminer là-dessus. Deux mots sur, je reviens sur Davos, puisqu'on l'a évoqué. Alors, j'avais cru, parce que quand je vous en ai parlé il y a 15 jours, je crois, j'ai dit, c'est bizarre cette réunion de Davos en plein printemps, alors que Davos, vous savez que c'était la grande réunion de recalage du grand capital international, donc c'était en janvier en général, de début d'année. Et en fait, ils se sont précipités pour organiser une réunion la fin mai, début juin, parce qu'ils ont considéré qu'il était temps de se serrer les coudes, c'est-à-dire que la situation était quand même préoccupante et qu'il valait mieux qu'on fasse le point entre tous. C'est pour ça qu'il y a eu des avis très différents entre Soros, qui était pousse au crime, et Kissinger, qui a dit qu'il faudrait qu'on soit un peu plus prudent que nous ne le sommes pour l'instant. Mais je voulais revenir, parce qu'à cette occasion, on a reparlé du fondateur du groupe de Davos. C'est vrai que Davos, c'est une espèce d'entreprise, parce qu'on fonctionne avec de gros budgets et tout. Et M. Schwab, dont vous avez peut-être vu le portrait, qui est le fondateur donc, des colloques de Davos, donc, il est suisse de nationalité, mais son père était très très favorable au nazisme. Son père était un général suisse qui a beaucoup eu de sympathie pour le Reich. Son père était à la tête d'une société financière qui a beaucoup aidé à financer l'apartheid de Sud-Africains, et en particulier le moment où l'Afrique du Sud a décidé de se doter l'arme atomique. Et bien M. Schwab avait des intérêts, le père de Schwab avait des intérêts là-dedans. Bon. Donc il ne s'agit pas d'un monsieur qui se préoccupe dans sa tour d'ivoire de l'avenir du monde, il s'agit d'un monsieur qui est très impliqué et qui a des intérêts tout à fait importants dans le grand capital international. Dernière chose, je regarde un petit mot, je voulais vous parler un petit peu de gaz. Un petit peu de gaz, puisqu'il en est question ces temps-ci encore, puisqu'on dit il n'y a plus de gaz russe, mais vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de gaz russe, il y aura du gaz naturel liquéfié qui arrivera par bateau. Et on est en train, sa cheminée, c'est le la cas se pose en Italie en particulier, pour recevoir du gaz naturel liquéfié sur un bateau, il faut pouvoir le regazéifier pour l'envoyer chez les consommateurs. Bon, c'est une opération industrielle dangereuse, oui, hein, dangereuse, qui nécessite des installations solides, surveillées, etc. Bon, on le sait, puisque à côté de Marseille, on a deux installations de ce type-là, deux sur les trois qui existent sur le territoire, ou sur les quatre qui existent sur le sol français, donc on sait très bien ce que c'est. Fosse. Mais voilà, c'est à Fos et à Montoire en Bretagne, ouais, et à Dunkerque. Ouais. Mais quand on n'a pas ces installations, qui ne se font pas du jour au lendemain, on trouve un bateau qui a déjà transporté du gaz naturel liquéfié et il fait un stock de au large. Voilà. Alors il faut transvaser le gaz d'un bateau à un autre, c'est assez dangereux.
Et en plus de ça, c'est une bombe. Hein.
Oui, c'est, on le met autant que possible à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes parce que c'est une bombe, parce qu'il y a des expérimentations qui ont été faites par Gaz de France à l'époque, au moment où il s'est mis à recevoir ce gaz liquéfié. Et effectivement, si jamais la cuve qui contient le gaz liquéfié s'ouvrait et que le gaz, on est dans une zone portuaire, allait sur l'eau, le gaz, c'est une nappe en folie et en fumée qui court à la vitesse d'un cheval au galop. C'est-à-dire que vous pouvez mettre la Méditerranée en feu, enfin, au moins, voilà, en quelques secondes. Bon. C'est donc, ça mérite, c'est stratégique. Et donc le fait que...
Et ça revient très cher.
Et, ça, voilà. Et le fait donc que l'Italie dise, pour faire plaisir, on ne va plus acheter de gaz russe, on va acheter des bateaux qui vont faire stockage en mer, l'Italie se lance dans une opération extrêmement dangereuse. Voilà, je voulais insister là-dessus. Voilà, merci de votre attention. Merci Aïcha, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. Et on va passer pour... Voilà, on passe le générique. À très bientôt. Et demain, on se retrouve pour une émission spéciale consacrée, j'ai le temps de le dire, voilà, consacrée à un grand intellectuel africain qui s'appelait Joseph Ki Zerbo, demain soir à 20h.